mais peut-être du tableau sur le mur auquel on tient celui-là et pas un autre. La propriété personnalisée. Et si on a donné un autre tableau, c'est un autre tableau. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose d'irréparable, d'irrémédiablement perdu, mais j'aurais à indiquer tout à l'heure que ce n'est que dans la perspective de la cohérence traditionnelle que ce monde-ci mène à un monde à venir que tous ces problèmes retrouveront leur situation plus exacte. Nous le verrons dans la Gemara immédiatement d'ailleurs. C'est pourquoi il faut faire une différence donc de nature entre les issourim, les épreuves, même si l'épreuve est la mort, mais en tant qu'épreuve, et d'autre part, ce qui s'est passé au temps de la Shoah, où il y a quelque chose de radicalement nouveau qui apparaît dans les rapports entre Israël et son Dieu. Jusque-là, l'alliance des rapports entre Israël et son Dieu impliquait l'éventualité de la bénédiction et de la malédiction. Mais il y avait plus que malédiction. Il y avait le fait que, semblait-il, l'alliance était suspendue. Et j'aurai à revenir de façon plus précise à ce sujet. Mais dans tous les cas, je veux retenir déjà cette distinction de catégorie entre a priori et a posteriori. Même pour les épreuves, la dimension rédemptrice de l'épreuve n'est retenue par la tradition juive qu'a posteriori et jamais a priori. Et en particulier, vous verrez les maasim qui sont racontés dans cette page de Talmud que je vous ai indiquée, en particulier ce qui concerne Rabbi Yochanan, qui était l'un des grands d'Israël de ce temps, et qui souffrait beaucoup, et à qui ses amis, venus lui rendre visite, comme on rend visite aux malades, avaient posé la question, « Havivin alecha issurin, est-ce que ces épreuves te sont chères ?» Sous-entendu, parce que tu vas monter en mérite, ça va t'améliorer ton dossier, ça va ton mérite. Alors il répond, Lohen velosraran, ni elle, ni leur salaire. Et alors son collègue, je crois que c'était Rabbi, je ne vais pas m'avancer, mais enfin un de ses collègues, lui tend la main et le lève de son lit de souffrance et le guérit. C'est-à-dire qu'il y a le principe que si la souffrance, l'épreuve est insupportable, elle peut être refusée. Et en tout cas, jamais. Ce qui n'a pas été le cas au niveau de la Shoah. Et en tout cas, jamais. Même celle qui est appelée épreuve d'amour. Surtout celle qui est appelée épreuve d'amour. Surin Shelahava. Et en tout cas, du point de vue de la tradition juive, jamais l'épreuve ou la souffrance n'est appelée a priori, fût-ce pour un salaire d'amélioration du mérite. Ce n'est que, et je vais en parler longuement la prochaine fois, en critiquant la thèse chrétienne de l'Holocauste, ce n'est que si, pour les raisons qui font qu'elle arrive, la souffrance arrive, que si elle arrive, alors l'attitude de piété consiste à l'assumer a posteriori avec une dimension rédemptrice, mais jamais a priori. Et il y a là une différence de nature avec le problème de Job, dans tous les cas, mais une différence en tout cas de nature avec la conception qui n'est pas juive de la dimension a priori rédemptrice de la souffrance. Je voudrais bien qu'on s'habitue clairement à cela. Nous avons été tellement imprégnés d'évidences contraires, enfin de pseudo-évidences contraires, que malheureusement énormément de juifs, du dedans d'une piété sincère parfois, s'expriment de cette manière. Or, une telle désignation est absolument scandaleuse. En tout cas, au nom de la tradition juive. Qu'il y ait des sensibilités religieuses de recherche a priori de la souffrance pour sa valeur rédemptrice, on peut le comprendre, mais il ne s'agit pas de la tradition juive, et même si vous avez en tête telle ou telle référence d'aspect de tel ou tel verset ou de telle ou telle source ou de telle ou telle source du Talmud ou du Zohar, ou peu importe, sachez qu'il n'en est rien et que ces apparences viennent de ce que nous projetons sur des textes hébraïques des mentalités étrangères. Bien. Et voilà, par exemple, le contexte de Bechol Etzev Yé Moutar, comme si ça voulait dire il vaut mieux souffrir qu'être heureux. C'est scandaleux, ça n'existe pas, c'est pas ça la sensibilité juive. Encore une fois, c'est toujours a posteriori que si la souffrance arrive pour quelque raison que ce soit et qu'elle est inévitable, alors une attitude de piété caractéristique du judaïsme consiste à l'assumer. En attitude de piété pour une fonction rédemptrice. Mais encore une fois, c'est a posteriori. Bien. Ceci pour bien pouvoir introduire la question sur laquelle nous allons réfléchir ensemble maintenant. Est-ce que ce qui s'est passé au temps de la Shoah est un Kiddush Hashem? Alors, je vous rappelle les deux points essentiels. À l'échelle individuelle, et dans un nombre considérable de cas, ça a été un Kiddush Hashem a priori. Préférer la mort que d'être obligé de violer l'essentiel de ce qui fait notre identité. Je vous ai cité un cas, mais on pourrait multiplier les exemples. A posteriori, c'est intégré comme un Kiddush Hashem à l'échelle collective. Bien, je crois que nous allons aborder immédiatement la lecture du texte pour la définition du Kiddush Hashem. Et je réserverai, alors, pour lundi soir, non pas ce que j'appellerai une tentative d'explication, parce que, comme je vous l'ai dit le mardi dernier, tenter une explication serait blasphématoire, parce que ça impliquerait d'une manière ou d'une autre une justification, en quoi que ce soit. Mais, en tout cas, une description de ce qui s'est passé, si vous voulez, une lecture de l'événement, mais par les yeux de la tradition juive, de telle sorte de comprendre que même cette interpellation ne met pas en question l'essentiel, il n'y a pas d'essentiel ou d'accessoire, ne met pas en question les catégories de la foi juive, à condition que l'on ait le courage de se hausser dans la manière de poser la question à ce qu'a été vraiment la dimension de l'événement. C'est une réflexion qui donne le vertige, c'est bien évident. Et comme je vous l'ai dit aussi, souvent, pas seulement à ce séminaire, les rabbins ont toujours refusé de parler de cela. Et non seulement de parler de cela, de laisser parler de cela. Nous sommes menés à le faire, et j'entends bien, j'aurais à le dire d'ailleurs, de façon encore peut-être plus perplexe et plus inquiète, lundi, nous sommes menés à le faire parce que trop de textes ont paru, d'abord, et trop vite, d'abord de la part de non-juifs, et lui aussi, je le déplore, de la part d'auteurs juifs, et qui se présentent comme des tentatives d'approche théologique. Il est donc nécessaire de commencer à réagir. Mais je ne me cache pas du tout le caractère absolument plus que délicat pour un juif traditionnel d'aborder ce problème. Il y a un halo blasphématoire qui ne sera jamais évacué. Dans tous les cas, il faut savoir que dans tous les cas, ça nous dépasse. Mais il faut à tout le moins tenter de restituer une cohérence minimum de notre relation, de la relation de nous, les survivants, à ce qu'a été l'événement à l'intérieur des catégories de la tradition juive elle-même. Il y a une réaction de défense. Je me souviens avoir participé immédiatement au lendemain de la guerre à la constitution du comité pour à Paris, du martyr, c'était Schneerson. Et je me souviens que Schneerson, qui était un grand juif, s'est trouvé en butte à pratiquement tous les dirigeants du judaïsme de cette époque, qui voulaient ne plus parler, ne plus réfléchir, oublier. Il a fondé, et il a eu raison de le faire, parce que ça a été le point de départ d'un rassemblement de documents qui nous sont nécessaires aujourd'hui, ne serait-ce que pour dévoiler et aux juifs survivants qui sont nés après, et aux non-juifs, que oui, ça s'est passé. Parce que, comme vous le savez, toute une propagande contemporaine, depuis quelques années, veut nier l'événement. Et je me souviens très bien de la véhémence avec laquelle il disait « Je comprends pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'occupe de ça, de fonder ce centre de... » Ça s'appelait le centre de documentation contemporaine. CDJ, le centre de documentation juive contemporaine. Mais faites bien attention et rappelez-vous de la mitzvah de ne pas oublier de se rappeler, de faire oublier Amalek. Je ne sais pas si vous comprenez la dialectique interne. « Zechor al tishkach » de ne pas oublier ce qu'a fait Amalek. Bien, alors abordons tout de suite la première page du texte pour cette première analyse. Et si nous avons le temps, nous reviendrons sur le détail de la définition des Issourim. Pourquoi ce n'est que a posteriori qu'ils sont assumés? Alors, on vous a distribué des feuilles, vous avez certainement vu dans la marge de gauche que j'ai écrit à la main la référence, tout simplement parce que dans l'édition que vous avez, les références étaient fausses dans la marge de droite. Alors, vous prenez exactement la cinquième ligne avant, là où la référence est indiquée. C'est une ligne qui commence par Kochavim, le premier mot. Vous y êtes? Et juste après, Amar Rabbi Yochanan. Donc c'est dans la page Ayin Dalet, 74 en hébreu. Amar Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Shimon, Ben Yotzadak. Vous y êtes? Prenez dans la première page, vous avez vu, il y a quelque chose d'écrit à la main en hébreu. Okay. Prenez cinq lignes avant. Ou quatre ou cinq suivant. Okay. Le premier mot de la ligne est Kochavim, qui termine un texte précédent. Vous y êtes? Bon. Alors, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yehotzadak. Voilà donc un enseignement de Rabbi Yochanan. Nimnu Regamru, Baaliat Bet Mitza, lorsque les Chachamim s'étaient réfugiés à Loud, vous savez où est Loud en Israël, ils s'étaient réfugiés dans la maison d'un juif qui s'appelait Mitza, et alors ils s'étaient réfugiés dans le grenier, et alors là ils ont discuté de ce problème. Quel problème? Et ils ont décidé la règle. Parce que c'était un temps de Shoah. Okay? Et donc les juifs de l'époque, les judéens, était exposé précisément au problème du Kiddush Hashem. Et là, vous vous rappelez de tout ce que il nous est enseigné à propos en particulier de Hanouka, mais d'une façon générale, chaque fois qu'il y avait les temps de Shmad, c'est-à-dire la menace, deviens païen comme nous, ou bien on te mettra à mort, et prouve-le que tu le deviens, mange ce qui t'est interdit de manger, agenouille-toi devant l'idole, pratique la débauche en public, etc. Et alors, on a finalement... on a dû se poser ce problème. Est-ce qu'il y a une limite à l'héroïsme, au temps de persécution, à l'héroïsme de fidélité? Parce que s'il n'y a pas de limite, nous risquons nous-mêmes de faire disparaître le peuple juif. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là? Il ne s'agit pas d'une tolérance vis-à-vis de la loi, mais d'une mesure de sauvetage. À partir du moment où le statut fait aux juifs est tel que s'ils continuent à pratiquer leur identité juive, ils disparaîtront, est-ce que disparaître plutôt que de violer la loi n'est pas aller dans le sens des persécuteurs et faire soi-même ce qu'ils voudraient que l'on fît? Vous rappelez d'ailleurs qu'au temps des guerres des Maccabées, ce n'est qu'à la longue qu'on a autorisé les soldats des Maccabées à faire la guerre le Shabbat. Dans une première période, on ne faisait pas la guerre le Shabbat, même si on était attaqué. Et alors les rabbins ont décidé, si on les laisse faire, ils vont venir nous assassiner le Shabbat ou un jour de Kippour. Et donc, vous voyez pas à quoi je fais allusion, et donc, parce qu'ils savent ces choses-là, okay, mais ils connaissent pas la halakha, heureusement pour nous. Et alors, donc, la halakha a décidé que on peut faire la guerre le Shabbat si on est attaqué. Okay. Alors voilà le principe. Kol averot sheba Torah. Toutes les transgressions indiquées par la Torah. Imomrim la Adam, si on dit à un homme, juif, avor vealtéharek, transgresse, alors on ne te tuera pas, et ça veut dire, si tu ne transgresses pas, on va te tuer, yavor vealtéharek, qu'il transgresse et ne soit pas tué. Et harek, c'est plus que tuer, c'est massacrer, assassiner. Chout, sauf, proie, interdiction. Chout mi avodat kochavim, sauf l'idolâtrie, Gilur Arayot, la débauche. Ceux qui étudient ces textes savent que Gilur Arayot, c'est à la fois plus large et plus précis que la catégorie de débauche, mais enfin, par commodité, on va employer ce terme. Vous savez qu'il y avait des orgies rituelles. Aujourd'hui, ces orgies sont culturelles, mais il n'y a pas n'importe quoi, c'est Arayot, pas n'importe quoi, c'est Gilur Arayot. Mais retenons, si vous voulez, le terme général de débauche. En tout cas, tout le monde sait de quoi il s'agit, malheureusement. ou Shfichut Damim et l'assassinat, le meurtre, le fait de répandre le sang d'autrui. Alors, voilà donc une première étude très rapide de ce premier enseignement. Donc, si on est en danger de mort, non, je me suis mal exprimé, s'il y a menace de mort, pas danger de mort, s'il y a menace de mort avec comme clause avoir à transgresser une mitzvah de la Torah, ce que la Torah interdit, et vous voyez qu'il y a une précision à apporter. Hein, on a le droit de ne pas faire ce qu'il y a à faire. Mais là, la question est, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'il ne faut pas faire, de violer, de transgresser l'interdiction. Si par exemple on dit à quelqu'un, si tu fais ta prière, je te tue. Alors ce n'est pas ce cas. Eh bien, il peut ne pas faire sa prière. Mais il ne s'agit pas de cela. On lui dit, ou bien tu transgresses l'interdiction de l'idolâtrie, et, ou bien je te tue. Ça c'est concernant une ravera. C'est clair. Vous avez déjà étudié cela, je reprends de nouveau le schéma général et classique de l'enseignement du Maharal, tel que le Maharal l'a mis en forme, c'est que nous avons dans ces trois interdictions le principe même des dimensions de la Torah, en tant que charte des valeurs. Puisque, comme vous le savez, l'ensemble des mitzvot se distribue en trois dimensions de relation à autrui, la relation à Dieu, la relation à l'autre homme, et la relation à l'identité humaine en nous. C'est mitzvot ben adam la makom, mitzvot ben adam la havero, mitzvot ben adam la atzmo. Je n'analyse pas trop ce thème, simplement je veux le remettre en évidence. Et donc, toute mitzvah dérivée de ces principes sera une des mitzvot de la Torah, mais les principes eux-mêmes, c'est dans l'essentiel de dans la relation à Dieu, c'est l'interdiction de l'idolâtrie, l'essentiel dans la relation à autrui, c'est l'interdiction du meurtre, et l'essentiel dans la relation avec la dignité humaine en soi, c'est l'interdiction de la débauche. Et d'ailleurs, ce sont les trois grands principes d'identité, et c'est au niveau de la manière d'être, plus que du comportement des actes, que ceci est visé, que les trois patriarches, les trois avots, ont instauré dans l'identité d'Israël. C'est-à-dire, c'est Abraham qui a instauré la vertu dans l'ordre des relations à autrui, l'amida de Chesed. C'est Isaac qui a instauré la vertu dans l'ordre des relations à Dieu, c'est Midat Adin, Avoda, et c'est Jacob qui a instauré la vertu dans l'ordre de la relation à l'identité humaine en soi, c'est Torah. Un homme sans Torah, sans Da'at, met en jeu sa propre dignité humaine. S'il est vrai, il est vrai que la spécificité de l'être humain, c'est la relation à la vérité. S'interdire la relation à la vérité, c'est mettre en question l'identité humaine en soi. C'est pourquoi d'ailleurs la vertu de Torah est reliée à Jacob. Vous rappelez le verset, Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Et la vertu de la avoda, de la relation authentique à Dieu, est reliée à Isaac. Et la vertu de charité, est relié à Abraham dans le sens positif des vertus. Alors inversement, et là dans le Perit Tzadik, il y a énormément d'enseignements à ce sujet, en particulier dans le Tzidkat Tzadik du Perit Tzadik, eh bien la violation de ces trois grandes catégories serait indiquée par ces conduites interdites par la Torah. Au niveau de toutes les mitzvot, la transgression met en question, mais au niveau des actes, notre identité. Tandis que celle-là, cette transgression-là, met en question notre identité, non seulement au niveau des actes, mais au niveau de l'identité elle-même. Et c'est la raison pour laquelle il y a Yahareg Valyaravour. Comment dire ça en français? Valyaravour. C'est-à-dire, il y a la limite qu'on ne peut pas dépasser. Là, pour sauver sa vie, il faut la donner à ce moment-là. Et toute une dialectique va apparaître dans la discussion talmudique, nous allons suivre assez rapidement, mais nous allons voir tout de suite qu'il y a des limites très précises, et précisément ces limites apparaissent dans la circonstance de la Shoah. Alors, je relis la phrase. « Kol averot sheba Torah, im omrim la adam, avor ve'al te'areg, ya avor ve'al yareg, chut mi'avodat kochavim, וגילוי עריות ושפיכות דמים ou sur route d'amis. Ouais. Je voulais simplement ajouter ceci, ce qui m'est revenu à l'esprit dans la relation avec Isaac, la Avoda, par rapport à l'interdiction de l'idolâtrie. Dans tous les cas, j'ai déjà dit, mais je pense ne pas avoir à le répéter, mais je le répète quand même, que présenter la Shoah comme une sorte de sacrifice d'Isaac est tout simplement faux. Et pour la raison fondamentale, vous vous souvenez ce qui était là mardi soir dernier, que le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu, alors que la Shoah a eu lieu. Je pense que c'est clair. Bien, alors première question de la Gemara. Varavodat kochavim lo, c'est une objection. Penserais-tu, et c'est pourquoi toi, Rabbi Yochanan, tu penses nécessaire de le préciser, que Avodat Kochavim, nous ne savons pas déjà par ailleurs et d'autre part que dans tous les cas, on doit se laisser tuer et non pas pratiquer l'idolâtrie. Avons-nous besoin de ta règle nouvelle qui nous met en évidence le principe de ces trois catégories et tout ce qu'il y a dans ce lot? Avodat Kochavim lo, ça veut dire Avodat Kochavim lo salkatartar. Aurais-tu pensé que non? Alors tu penses que c'est nécessaire de l'affirmer? Vehatania. Mais n'est-ce pas que nous avons d'autre part, dans la Maseret Avodah Zarah, page 27, nous avons d'autre part l'enseignement suivant, Amar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a enseigné. Minayin, Sheim Amrou Lola Adam. D'où savons-nous que si on a dit à un homme, Avod Avodat Kochavim Vel Tehare, d'où savons-nous que si on a dit à un homme, pratique l'idolâtrie et tu ne seras pas tué, suivez bien. C'est là que va apparaître la distinction en privé ou en public. Tu ne seras pas tué. Minaïn, chez Yahavod, Vagyarek, d'où savons-nous qu'il peut pratiquer l'idolâtrie et ne pas être tué? Talmud Lomar, Vahai Bahem. Vahai Bahem, ça va nous ramener à un verset que nous avons tout de suite étudié, qui est un des sens du problème. C'est parce qu'il est écrit à propos des mitzvot, les mitzvot que l'homme doit accomplir et vivre par elles. Vahai Bahem. Le drash de Rabbi Ishmael, c'est de dire Velo, chez Yamut Bahem. Et non, qu'il meurt par elle. Les mitzvot sont données pour que nous vivions, et par conséquent, si nous risquons de mourir à cause d'elle, alors il faut vivre et ne pas mourir, donc on peut les transgresser. Vous voyez le raisonnement? Alors à ce propos, tout de suite, on a dit, au nom de Rabbi Ishmael lui-même, Yachol afilu befarasia, tu pourrais croire que même si c'est en public qu'il va appliquer ce principe, il y a écrit et vivre en elle, et pas mourir en elle, donc je fais le mal qu'on m'a demandé de faire pourvu que je vive, tu pourrais croire que ça vaut même le farasia, mais le farasia en public. Attendez, une petite nuance, de façon ostentatoire, le farasia. Okay? Talmud Lomar, alors non, si c'est le farasia, de façon ostentatoire, non. Là, il doit se laisser tuer. Puisque notre verset dit, c'est là que je vous donne les références, il y a un chibouche dans votre texte. Et c'est de là que vient l'expression qui nous cherche. Là, nous avons étudié ces deux versets. Le verset dit, vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté et je serai sanctifié. Donc, la mort, dans le cas où il y a eu menace de transgression au-delà des limites, selon l'analyse de tout à l'heure, sera appelée Kiddush Hashem, mort pour la sanctification du monde. C'est-à-dire la Torah prévoit que ces limites ne doivent pas être dépassées parce que Israël est chargé, et c'est son objet, de porter le Kiddush Hashem. Et donc il porte le Kiddush Hashem dans la vie. Mais il y a des circonstances où c'est par la mort qu'il portera le Kiddush Hashem. Voilà donc quelle est la définition de cette catégorie. Vous l'avez dans cette référence. Nous aurons, j'espère, l'occasion d'aller plus loin. En tout cas, tout de suite, nous allons étudier les versets et le mashma, c'est-à-dire le raisonnement par lequel ces principes de la Gemara utilisent ce verset. Alors, le premier verset, c'est celui qui autorise à violer un commandement s'il y a danger de mort. Nous savons ici, par Rabbi Yochanan, sauf ces trois interdictions. Mais on aurait pu penser que Rabbi Ishmael avait utilisé ce principe de l'autorisation de transgression même pour l'idolâtrie. Alors c'est là que la discussion va rebondir tout à l'heure. Est-ce que c'est fait en privé ou est-ce que c'est fait en public? Et tout de suite, je vous le dis pour être complet dans la formule, et en public, ça veut dire devant un minyan de juifs. Si c'est en public de goïm, c'est pas grave. Mais en, parce que le verset dit « Venit d'ashti betochechem » et je serai sanctifié parmi vous. Il ne s'agit pas du tout, ici, dans cette première catégorie du Kiddush Hashem, de porter témoignage du Kiddush Hashem chez les goïm. Vous comprenez quel est le problème. C'est-à-dire que s'il s'agissait d'une menace de mort dans ces catégories-là, à l'échelle privée, sans que personne ne voit, et qu'il n'y ait pas, et il faut qu'il y ait un minyan complet, hein, qu'il n'y ait pas au moins 10 juifs à assister à cela, alors il y a autorisation par la halakha de transgresser et de ne pas mourir, mais ça sera, comment dire, héroïsme supplémentaire, ça serait piété supplémentaire, je ne voudrais pas dire chassidut ici, mais kdusha supplémentaire, de mourir quand même, mais la règle ne le demande pas. Est-ce que c'est bien clair? Même pour ces trois fautes-là. Alors, le premier machma que nous allons étudier, c'est-à-dire là, le premier raisonnement de la Gemara dans l'utilisation du verset, c'est donc le verset du chapitre dans Vaïkra, le verset 5 du chapitre 18. Faites bien attention parce que dans vos Gemarot, ici dans cette page, on vous a mis chapitre 22. Or, il s'agit du chapitre 18, verset 5. Voici ce qu'est quel est le verset. Qu'est-ce que je vous ai dit? 5, 18, c'est cela. Ushmarte mes trukotai, et vous préserverez mes lois, vet mishpatai, et mes jugements, c'est-à-dire les lois, c'est les principes de la règle de conduite. Les mishpatim, c'est l'application de ces principes. Chokim ou mishpatim. Bon, je traduis plus commodément. Et vous préserverez mes lois, mes statuts, au singulier, asher ya'ase otam ha'adam, que l'homme doit accomplir, va hay bahem, et vivra bahem, par eux, à travers eux, en eux, ani hachem, je suis hachem. Alors, c'est donc la première dracha se base sur ce verset, sur l'expression de ce verset, Vahai Bahem Velo Yamut Bahem. C'est-à-dire, est-ce que la Torah avait à indiquer que le fait de se conduire suivant Torah Hashem, le fait de se conduire suivant les principes de la Torah, mène à la vie? Elle n'avait pas à l'indiquer de façon supplémentaire. Si elle l'indique, c'est pour un mashma. Si elle l'indique, c'est pour impliquer quelque chose de plus. Précisément la réponse à ce problème qui s'était posé à Louz. C'est-à-dire, et si on est menacé de mort à cause de la pratique de la préservation de la pratique des commandements, quoi faire? Alors là, il y a une indication. Il y a un yétour lachon, comme on dit en hébreu. Il y a une expression dont on pouvait peut-être faire l'économie dans le texte. Si elle est là, c'est pour indiquer quelque chose de plus que ce qu'elle dit. Je veux dire, du dedans de cette évidence que ça va de soi, que si le Créateur du monde nous a donné une règle de vie, c'est pour nous mener à la vie. Pourquoi c'est dit ici encore de façon supplémentaire? C'est pour impliquer la réponse éventuelle à la question éventuelle, et si je suis en menace de mort? Alors, vahai vahem, c'est-à-dire velo yamut vahem. Est-ce que c'est clair? Bon. Mais avant d'approfondir encore ce principe, voyons tout de suite ce que dit Rashi, citant le Midrash, sur le verset. Et c'est très important parce que ça va éclairer le centre même de notre problème. Vahai bahem la olam haba. Rashi nous a tout bouleversé. Les mitzvot que l'homme doit accomplir et vivre en elle. De quelle vie? Regardez Rashi. De la vie du monde à venir. Chez im tomar ba olam haze. Parce que si tu dis qu'il s'agit de la vie du monde à venir, là, Rashi est très fin. Vahalo sofo humet. Mais n'est-ce pas que tout le monde va mourir? Alors de quoi tu parles? Si tu dis que la pratique des mitzvot, c'est pour assurer la vie dans ce monde-ci, alors pourquoi les juifs meurent? Les autres, on ne parle pas, mais en tout cas, pourquoi les juifs meurent, ceux qui pratiquent les mitzvot? Donc il faut comprendre le verset de façon cohérente. Le texte n'a pas voulu vouloir dire, afin d'assurer la vie terrestre, mais afin d'assurer la vie du monde à venir. Vous allez vous-même comprendre comment nous avons la clé de notre problème dans le principe suivant. Pourquoi la tradition a intégré l'événement de la Shoah dans la catégorie du Kiddush Hashem? Parce que, au niveau du témoignage de l'identité de personne, pris dans ce piège dans lequel les Juifs étaient pris, eh bien, lorsque nous disons qu'ils sont morts pour le Kiddush Hashem, ça veut dire que leur mort leur donne l'assurance de la survie, qu'ils aient été pieux ou pas. C'est ça, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, ça sort des catégories du jugement individuel. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts de la Shoah sont dans la catégorie du Kiddush Hashem, ça veut dire Chayav Olam Haba. Est-ce que c'est clair? Et par conséquent, dans aucune de nos analyses, nous ne pouvons pas avoir l'ombre d'une hypothèse d'accusation de responsabilité en disant qu'ils sont morts pour leur faute. De quoi on parle? Ils sont morts dans le Kiddush Hashem, c'est-à-dire qu'ils ont d'emblée Chayav Olam Haba. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez comment ça se relie à cette thèse qui consiste à dire, je vous la citerai dans beaucoup d'auteurs lundi soir, la réaction de la piété traditionnelle juive, ça consistera à dire, c'est à cause de nos fautes que nous sommes morts. C'est un chiloul, c'est une calomnie des Kedoshim, puisque mort dans la catégorie du Kiddush Hashem, ça veut dire que ce sont des tzadikim, mais à un niveau qu'il nous faut découvrir. Est-ce que c'est clair? À un niveau de Kiddush Hashem qu'il nous faut découvrir. Et c'est là qu'on ne peut pas comprendre. Il ne s'agit pas d'expliquer, mais il s'agit de voir les choses comme elles sont. On ne peut pas comprendre la relation à une cohérence de la tradition juive s'il ne se restitue pas ce que j'ai indiqué tout à l'heure dans l'intention des nazis, la notion du Klal Israël. Ils étaient tzadikim au niveau du Klal Israël. C'est le Klal Israël que visait Hitler et en général cet antisémitisme de type Amalek, pas l'antisémitisme de type Esaü, pas l'antisémitisme de type peu importe, mais l'antisémitisme lorsqu'il prend l'intention d'Amalek, c'est-à-dire la destruction ad nihilo. C'est au niveau de l'identité d'emblée que cela se passe et non plus du tout au niveau du mérite des actes. Et cette formule, c'est à cause de nos fautes que nous avons été massacrés, n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas au niveau des actes que ça s'est passé, ce qui touche Hachem, c'est au niveau de l'identité. Est-ce que c'est clair? Des fois, c'est les actes. Enfin, j'aurais à dire un peu plus abondamment, et là, je sens bien que cela sera à discuter. Lundi, ceci. Cherchons quelle mitzvah ont violé, et les pieux et les non-pieux, et les pratiquants et les pas pratiquants, et les justes et les non-justes, dans le sens classique au niveau des actes. Puisque tous, quelle que soit leur relation à la mitzvah, ont été massacrés. Il y a une mitzvah que tous ne pratiquaient pas. Le fait de ne pas avoir mis fin à la galoute. Cette mitzvah-là, et les tzadikim et les non-tzadikim dans le sens classique, la violaient tous allègrement, et parfois pieusement. Mais c'est donc pas au niveau des actes que ça se passait. C'est au niveau d'un projet d'anéantissement de l'identité. Et par conséquent, a priori, on comprend bien qu'il n'y a aucun... ça n'a aucun sens de dire des phrases de ce genre. Les Juifs, nous, Juifs, Dieu, nous disons que nous, Juifs, nous avons été massacrés à cause de nos fautes. Ça, c'est un raté de la piété. C'est une erreur monstrueuse d'une piété qui s'est laissée imprégner de conceptions étrangères. Et vous voyez à quel point... il y a là le danger de déculpabiliser l'antisémitisme en disant oui, l'antisémitisme vient punir quelle faute? De quelle faute s'agit-il? De la faute d'être juif, ça c'est autre chose. Ça veut dire que c'est au niveau de l'identité. Donc ça veut dire qu'il s'agissait bien d'un Kiddush Hashem absolu. Encore une fois, retenons la distinction que j'essayais de proposer. À l'échelle individuelle, et certainement à l'échelle de millions de personnes, le Kiddush Hashem a été a priori. Mais à l'échelle collective et au niveau de l'identité, c'est un Kiddush Hashem a posteriori et intégré comme tel. De la même manière d'ailleurs qu'il avait été intégré comme tel pour les victimes des croisades, pour les victimes de l'Inquisition. Parce que ont été brûlés aux croisades ou à l'Inquisition aussi des Juifs qui n'étaient pas si hommes de la foi que cela. Puis qu'inévitablement, il arrivait un un temps où c'est la communauté comme telle qui était prise au piège, et il y avait une réaction de dignité humaine qui était le fait de se réclamer de cet Israël persécuté. Et c'est ça l'essentiel de la foi, dans l'expression en français de martyr de la foi. Les plus grands martyrs de la foi, c'est ceux qui n'ont pas la foi. Parce que ceux qui ont la foi, il y a quelque chose qui les aide. Mais ceux qui n'ont pas la foi, c'est eux les martyrs. Et donc, vraiment, les kdoshim du Kiddush Hashem, c'était Dafka, ceux qui n'avaient pas la foi. J'aurais bien aimé que Manès Perver soit là. Enfin, j'espère qu'il lira. Il lira ce texte. Je ne pense pas avoir l'occasion de revenir sur cette analyse lundi, mais je voulais vous l'indiquer, en particulier à propos d'un verset d'Isaïe qui est très important et qui est le verset suivant. Le verset 5 du chapitre 44 d'Isaïe. Zé yomar l'Hachemani. Lorsqu'arriveront ces choses qui arriveront, alors l'un dira l'Hachemani, je suis à Hachem, c'est-à-dire proclamation de je suis homme de la foi. L'un dira de façon claire, Vézé ikra b'shem Yaakov, l'autre se nommera du nom de Jacob, il dira je suis juif. Vézé irtov yado l'Hachem, et un autre écrira sa main pour Hachem. Ici l'expression est difficile, et ça veut dire dans l'ordre de la promesse. Je ne suis pas encore pour Hachem, mais j'y mets la main. Ou Pshem Israël et Chané. Mais il se définit du nom d'Israël. Et ça suffit pour être dans le cas de cette catégorie. C'est-à-dire, ça nous fait nous souvenir des grandes discussions idéologiques que nous avions immédiatement après la guerre, au mouvement des éclaireurs en particulier. Les anciens des Aïe ne vous levez pas. Et lorsqu'il y avait la discussion entre Fleg et Chameau, ça s'appelle. Et puis, la formule du mouvement était finalement, quiconque se réclame du nom de juif pour quelque raison que ce soit, ça le regarde, étant donné les circonstances, c'est un juif authentique. Parce que pour se réclamer du nom de juif, c'était déjà que le nitzot, l'étincelle de la neshama d'Israël est apparu. Et il y a eu énormément d'hommes qui, Manès Perver en a parlé, en parlant un peu de lui-même, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce qui était là, d'hommes qui, dans tous les cas, auraient pu se préparer, les circonstances ayant été autres, à quitter le peuple juif, par le biais de quelque engagement que ce soit ailleurs, que ce soit l'assimilation ou autre chose, mais qui, pris par ces circonstances, ont tenu l'attitude suivante, « Ah, juif, alors oui, juif !» et se sont mis l'étoile jaune. Et je pense que beaucoup de goyim, les chassidim monta olam, étaient aussi dans ce cas. Alors ça suffit pour entrer dans le verset d'Isaïe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a l'habitude dans les catégories de la Kabbalah de dire qu'il s'agit là de la réaction du juif en tant que juif de Joseph. Hein? C'est l'identité Joseph qui se dévoile. Apparemment aucun rapport avec ce que l'on appelle la foi, la loi, les mitzvot, la piété, tout ce que vous voudrez, mais juif, alors oui, juif. Combien de fois j'ai passé ma jeunesse dans ce temps-là, et combien de fois j'ai eu à entendre des déclarations de ce genre de mes camarades de classe, de mes amis du quartier, etc. Ils disaient, toutes ces choses-là, moi, rien du tout. Je suis français, gamarnou, un point, c'est tout. Ah, mais quand on me dit juif, ah, ça, je vais l'expliquer. Alors là, vraiment, je suis juif. Vous voyez ? Apparemment, et je l'ai souvent considéré comme ça, mais il y a plus. C'est uniquement une réaction de dignité humaine et pas juive. Mais Dafka, c'est ça, finalement, la dignité juive en tant que dignité humaine. Bon, je me suis mal exprimé, vous avez compris qu'il se passe là quand même quelque chose d'important. J'ai vu, notamment, dans des textes importants du Rav Nachman de Breslav, dans les Likutei Amarim, qu'il explique ça de cette manière. C'est la partie cachée de Joseph en nous qui se dévoile. Et donc, il y a bien là quelque chose d'extrêmement important. Et nous allons un peu refaire le raisonnement de Rashi pour mettre en évidence un point qui m'a précisément frappé. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est donc finalement le Kiddush Hashem? C'est l'acquis de Chaya Olam Haba, l'acquis du monde à venir, du dedans même, qu'il est d'une situation récapitulative globale qui dépasse le comportement des actes parce qu'elle touche d'emblée au niveau de l'identité. Et en effet, tout se passe comme si, dans ce problème, Israël est véhicule du témoignage du Kiddush Hashem. Et donc, il est des circonstances où sauver sa vie de Olam Haba, comme dit Rashi, Chaya Olam Haba, consiste à la perte dans ce monde. Parce que sinon, il y aurait position de contradiction dans l'essentiel même. Et par conséquent, nous arrivons donc à la réponse à la question que nous sommes posée. Le fait d'être massacré parce que juif est un Kiddush Hashem. Parce que finalement, il y a ce diagnostic d'une intention d'anéantissement du peuple connu comme étant le porteur du Kiddush Hashem. Et par conséquent, c'est dans le fait même de l'événement que le Kiddush Hashem est réalisé. C'est pourquoi je vous faire clair, c'était effacer la révélation de Dieu. C'était effacer la révélation de Dieu sur terre. Et il savait très bien qu'il n'avait qu'un seul moyen, c'est celui-là qu'il a cherché à employer, c'est détruire les porteurs du Shem, de détruire les porteurs de ce témoignage. En réalité, son combat était contre les Juifs parce qu'il était contre le Dieu de la vie. Et j'ai retrouvé ce même enseignement chez le Rav Kook parlant des Russes. En ce sens que les Russes ont pris la suite. Hein, et que ça ne peut pas être par hasard. C'est moi qui formule un peu comme ça, mais comprenez l'essentiel. Que c'est dans l'ordre de la succession de ces civilisations de l'athéisme militant, tant le nazisme que le marxisme, en tout cas soviétique, que l'ennemi principal, c'est le peuple juif. Et il y a là un diagnostic direct. Vous voyez bien où apparaît Amalek. C'est-à-dire la lutte idéologique des nazis, puis des marxistes, est contre le Dieu de la Bible. La lutte historique, c'est contre les juifs. Mais c'est la même chose. Les chrétiens, c'est Esav, c'est Edom. Dans la mesure où les chrétiens donnent la main à l'entreprise d'Amalek, alors ils sont Amalek. De la même manière que les musulmans, l'islam, les arabes, comme on dit, ça c'est Ishmaël. L'antisémitisme d'Ishmaël n'est pas celui d'Amalek. C'est dans la mesure où ils donnent la main à Amalek qu'il est dans ce cas. Vous vous souvenez qu'à un des séminaires, nous avons étudié une référence où Esav propose une alliance à Ishmaël pour faire apparaître Amalek. Et Ishmaël n'en veut pas. Il y a actuellement un drame à une échelle de dimension autre, mais peut-être de nature assez analogue. Actuellement, dans les jours que nous vivons, ce qui se passe avec les chrétiens du vivant. Et on ne peut pas ne pas être frappé par l'indifférence monumentale du monde entier. Alors, il n'y a pas de doute que comparaison n'est pas raison, enfin, toutes circonstances mises à part. Même si, qu'à Dieu ne plaise, les chrétiens du Liban disparaissent, les chrétiens ne vont pas disparaître. Vous voyez, la portée est autre. Mais l'atmosphère dans laquelle ces choses se passent, c'est que nous vivons dans un monde où l'assassin n'est plus Ésaü seulement, n'est plus Caïn seulement, il est Amalek. Vous comprenez à peu près quel est le problème. Il y a un type d'identité qu'on veut assassiner. La dimension la plus grave qui vous rappelle l'inquiétude, le pessimisme de Manès Perver l'autre soir, c'est cette espèce d'indifférence. Moi, surtout, ce qui me frappe, ce qui m'épouvante, c'est la manière dont les journalistes parlent. Et dans les journaux, et à la radio, et à la télévision, une espèce d'analyse froide, et on vous explique les mécanismes derrière, en indiquant subrepticement que le véritable responsable, c'est Israël, ça va de soi. Mais c'est la manière dont on traite de ces choses. Cette irresponsabilité-là, elle n'est pas l'irresponsabilité habituelle des intellectuels quand ils sont journalistes. Mais elle est pire que l'irresponsabilité. Elle est une participation de culpabilité. Parce que c'est le témoignage que le monde contemporain objectivise ces choses-là, les théorise, et donc est fondamentalement déshumanisé. Et je crois que le procès de cette civilisation commencera par celui des journalistes. surtout les éditorialistes. Alors, à cela en plus, non seulement éclairent l'opinion publique, vous dites, mais passent leur temps à changer d'avis 3 fois par jour. Hein? Bien, il y a une responsabilité à ce niveau-là qui est extrêmement, extrêmement grave. Et vous savez à quel point des gens de bonne foi, des gens en réalité, on retrouve notre problème de sincérité, authenticité, des gens pourquoi pas sincères, tombent à pieds joints dans ce piège et dévoilent au fond leur être profond, qui est un être démoniaque, qui est un être inhumain. Comment passer son temps d'intellectuel, écrivant pour les autres, à tenter d'expliquer rationnellement pourquoi il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes, et pourquoi il y a des assassinats politiquement cachers et des assassinats pas politiquement cachers, etc. En fait, c'est épouvantable. Mais il n'y a pas de doute que c'était l'atmosphère dans laquelle nous avons vécu. M. Levinas a écrit, j'essaierai, si j'ai le temps, de vous citer tout à l'heure un autre texte de M. Levinas, mais a écrit une fois, je pense que dans Difficile Liberté, il faudrait le retrouver, un texte où il disait l'horreur de l'horreur. Et en ce temps-là, c'est que dans toutes les persécutions habituelles, l'opinion publique universelle savait que quand on faisait du mal à quelqu'un, c'était du mal. Savait où était le bien et le mal, même ceux qui faisaient le mal. Mais là, les catégories du bien et du mal ont été suspendues, au point que les Juifs eux-mêmes sont arrivés souvent à se demander si par hasard, ils n'avaient pas tort. Vous savez, cette espèce de névrose d'avoir à donner, à cause de l'énormité de l'accusation, d'avoir à donner raison à celui qui a tort pour que le monde ait un sens. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et malheureusement, nous vivons ce problème dans le drame du conflit entre Israël et le monde arabe, et le monde entier arabe interposé, d'ailleurs, cette espèce de névrose qui consiste à tendre, à donner raison à qui a tort pour que le monde ait un sens. Vous voyez à peu près le problème. Beaucoup de Juifs ont été victimes du nazisme jusqu'à la mort. En ce temps-là, peut-être qu'ils ont raison. Après tout, il ne peut pas se passer une chose pareille sans qu'il n'y ait pas une culpabilité quelque part. Alors c'est la nôtre. Vous voyez à peu près le problème. Bon, alors là, c'est donc au fond l'essentiel de l'analyse sur les sources dans le Talmud.